départ. C'est un balado engagé sur l'action climatique organisée par la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Sandrine Elie et je suis vraiment fébrile à l'idée de vous accompagner encore une fois dans cette deuxième saison, dans laquelle nous allons nous plonger dans la souveraineté alimentaire, comment cultiver nos droits. Pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir avec moi Madame Ucha Akwa Enyonam, qui est sociologue et membre d'un organisme du Togo, qui milite depuis plus de 50 ans pour les droits et l'action des communautés rurales en Afrique. Elle était d'ailleurs l'invitée internationale de notre conférence d'hier, le 8 novembre, en ouverture des Journées québécoises de la solidarité internationale. Alors, bonjour, Madame Ucha.
Bonjour, Madame.
Je suis vraiment très heureuse de pouvoir continuer avec vous les réflexions qui ont été abordées hier. Mais avant toute chose, je voulais vous demander une question un peu plus personnelle, si vous me le permettez.
Allons-y.
Je me demandais, pourquoi êtes-vous devenue sociologue? Qu'est-ce qui a déclenché ce souhait de porter la cause agricole au sein de votre vie professionnelle?
Ucha a choisi de devenir sociologue, pas seulement pour les femmes au départ, mais finalement pour les femmes en raison de ma proximité avec le milieu rural. J'ai un parent qui a vécu en milieu rural et j'ai vécu toute, je ne peux pas dire la souffrance, mais cette défaillance hein, du minimum qu'on doit apporter au milieu rural. Le milieu rural est souvent défavorisé, mais il suffit d'une organisation pour que ça marche. Si nous avons réussi avec l'appui de la production, il y a mes parents, mon papa, il a été un grand agriculteur, il a produit, il nous a nourris et sainement, mais je peux aussi contribuer en aidant plus les femmes, en accompagnant plus le monde rural pour que nous puissions mieux manger à ville.
Merci de votre partage. J'adore vraiment connaître justement ces histoires-là qui nous forgent puis qui fait qu'on prend certaines directions puis que ça fait du sens, en fait, les directions qu'on prend. Puis en fait, je me demandais concrètement aujourd'hui comment cet engagement-là s'est traduit dans votre vie.
Merci, madame. Et la souveraineté alimentaire, c'est un droit. Le droit à l'alimentation, c'est un projet collectif porté par le réseau INADES Formation Togo. Et ce projet est porté dans les 10 pays du réseau. Et la particularité des femmes est venue aussi avec le projet Égalité des genres mené par les femmes en Afrique de l'Ouest qui a été initié ensemble avec INADES Togo, INADES Formation Togo, je vous en prie, et Interpares. Et Interpares avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada. Ce travail se fait au sein du réseau par rapport à l'enjeu qui est lié à l'insécurité alimentaire. Cet enjeu, nous le savons tous, c'est un défi que nous devons relever. Et quand nous parlons de nous, nous parlons et des hommes et des femmes. Mais nous constatons aujourd'hui que la plus grande partie de la population rurale qui est agricole, est constituée de femmes. Et c'est là même le fondement de notre action, et particulièrement moi, en adhérant à la cause féminine, en accompagnant ces projets de femmes pour plus de participation de la femme. Et quand nous parlons de participation de la femme, au niveau du projet à INADES Formation Togo, nous parlons de la participation de la femme et aussi des hommes, parce que ce ne sont pas les femmes seules qui font le travail. C'est toute une organisation sur la ligne. Hein. Il y a les hommes, il y a les femmes, mais quand nous prenons les systèmes alimentaires, il y a au niveau de la production une organisation qui est faite et nous accompagnons l'organisation là. Par rapport à cette organisation, nous appuyons le renforcement de capacités, l'organisation en coopérative. Nous appuyons au niveau de la transformation, les femmes qui sont au niveau des unités de production, de transformation. La transformation se fait suivant un processus et ces femmes organisées en coopérative doivent savoir gérer, en plus de produits qu'elles sont en train de transformer, de savoir gérer leur organisation interne. Parce que quand nous parlons de transformation, le produit que nous avons mis en valeur, c'est le fonio. C'est un produit à forte valeur nutritive et aussi culturelle. C'est dans une zone où le travail se fait et au sein de la gouvernance de la coopérative qui porte cette transformation-là, il faut que tous les membres de cette coopérative-là se sentent appartenir à l'organisation et puissent travailler réellement à l'avancement de l'organisation.
Il y a tellement des choses intéressantes, je trouve, déjà dans ce que vous venez de dire, que j'aimerais qu'on approfondisse d'emblée. Le fonio, moi, c'est quelque chose que jusqu'à tout récemment, je ne connaissais pas, cette semence-là, qui, je crois, que pour le Togo et peut-être d'autres pays africains aussi, est très, très significative. Je pense que c'est une semence ancestrale. Puis en ce moment, le blé gagne beaucoup plus de terrain, mais il ne correspond pas à la réalité des terres là-bas. Donc, pourquoi est-ce que le fonio, c'est aussi important pour vous dans les projets en ce moment qui sont porteurs puis qui réussissent bien?
Le fonio, la nourriture de base d'une communauté que nous appelons la communauté Akoso. Il y a la communauté Adélé, la communauté Akebou plutôt. Ça veut dire une grande frange de la population togolaise. Et ça rentre dans les cérémonies, ça a une valeur importante culturelle. Mais au-delà de cette valeur culturelle, le fonio est un céréal à forte valeur nutritive. Et le fonio se cultive dans les conditions qui ne demandent pas autant d'apports extérieurs en engrais chimiques. Le fonio se cultive dans une zone tranquille qui est adaptée à la réalité togolaise. Et c'est ça l'objectif, ce qui nous a poussé à cibler le fonio. Et le choix du fonio aussi s'inscrit dans l'idée globale, comme je le disais, de repositionner les vivres de souveraineté pour surtout constituer la résilience au changement climatique. Ça veut dire que dans chaque zone, il y a un produit qui est identifié. Donc, nous faisons ce travail du fonio dans la zone, dans la zone des plateaux, la région des plateaux au Togo. Mais cette production est étendue sur toute l'étendue du territoire, en ce sens que le produit qui a été transformé est mis sur le marché et il y a la mise en lien avec les restaurants de proximité. Les femmes qui transforment le fonio présentent le produit au foie, au salon, et nous ne connaissons pas la valeur nutritive de ce produit-là, l'importance que ça revêt, et nous remettons ainsi le fonio sur la table avec une consommation très appétissante. Quand nous parlons du blé qui est rentré au Togo, jusqu'à un passé récent, on en croirait encore que ça pouvait faire l'affaire. Mais nous avons vu avec le COVID-19 et aussi la guerre en Ukraine, tout le défi que cela a posé. C'est ce qui pose encore aujourd'hui la question et l'importance du repositionnement des vivres de souveraineté dans le fonio.
Mm-hmm. Merci, c'est super intéressant. Puis justement, on l'aborde un peu jusqu'ici de manière directe, mais la différence entre la sécurité et la souveraineté alimentaire, on parlait justement des valeurs nutritives du fonio, mais est-ce que vous pouvez nous définir ou nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre une sécurité et une souveraineté alimentaire?
Quand nous parlons de sécurité alimentaire, nous mangeons. Et nous mangeons tout ce que nous trouvons. Nous mangeons ce qui peut venir de l'extérieur. Nous mangeons ce qui est produit à l'extérieur et qui ne respecte pas forcément les conditions dans lesquelles nous vivons. Nous mangeons parce que nous sommes dans un monde de globalisation où le commerce, on peut ramener d'un autre pays tous les produits dont on a besoin. L'essentiel, c'est de pouvoir satisfaire à sa faim. C'est de ça qu'on parle de sécurité dans la sécurité alimentaire. Mais quand nous parlons de souveraineté alimentaire, nous revenons à nous. Quand nous parlons de nous, c'est notre territoire. Sur notre territoire, de quoi nous avons besoin? Quelles sont les conditions de production de ces vivres-là? Est-ce que les semences qui sont importées sont adaptées aux conditions climatiques, culturelles du pays? Donc, nous voulons parler des produits qui sont adaptés aux conditions togolaises et que nous produisons dans les mêmes conditions que nous nourrissons de ces produits-là et qui permet le développement de la main-d'œuvre locale et la valorisation des populations qui sont au Togo. Quand nous parlons des femmes, les femmes maîtrisent toute la filière de production de fonio. Le travail de la femme sur le fonio de la production jusqu'à la consommation, la femme a la maîtrise de ça. Mais quand nous parlons du blé, le blé qui arrive au Togo, il faut apprendre à fabriquer le pain. Comment ça se fait? Mais si le blé n'est pas cultivé au Togo, le jour où on n'a pas le blé, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous intégrons les vivres au Togo dans notre alimentation, dans la production locale? C'est en ce sens que la souveraineté alimentaire est capitale et nous devons y œuvrer ensemble, ici et ailleurs aussi, et dans le monde, s'il vous plaît, de façon globale, en intégrant, en permettant à chaque territoire d'avoir les moyens de pouvoir développer sa production locale et consommer localement.
Qu'est-ce que l'agroécologie selon les membres de l'ACOSI? C'est une science, une pratique et un mouvement social qui préconise des pratiques agricoles écologiquement durables et socialement justes et qui présente un intérêt pour les communautés rurales pauvres en ressources, non seulement parce qu'elles constituent une solution accessible et abordable pour ces populations, mais aussi parce qu'elles remettent en question la dynamique de pouvoir caractérisée par l'exploitation et l'oppression qui dominent actuellement le système agroalimentaire. Cette définition est tirée du lexique de la solidarité internationale développée par l'ACOSI dans une perspective de décolonisation des savoirs.
Vous l'avez abordé un peu, que justement, des femmes vont décider de cultiver le fognon pour aller en vendre à différents commerçants. Et à quoi ça ressemble en ce moment le portrait des gens qui cultivent, des gens qui choisissent le milieu agricole? Est-ce que ça va être plus pour se nourrir soi? Est-ce que ça va être plus justement de faire une plus grande production puis aller vendre au marché? À quoi ça ressemble le portrait en ce moment de qui cultive, pour qui? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est une production personnelle? Peut-être le ratio homme-femme qui cultive ou qui sont propriétaires aussi?
Nous avons commencé un travail. L'idée, c'est d'avoir le travail de production agricole comme une entreprise. Quand nous parlons de coopératives agricoles que nous devons renforcer, ce n'est pas une production individuelle. Au départ, ce sont des productions individuelles. Mais des femmes et des hommes se mettant ensemble produisent une grande quantité. Il y a une organisation qui se fait d'abord au niveau des producteurs de semences dans plusieurs localités pour pouvoir assurer et garantir les semences à tout ce qui veut produire le fognon dans la zone, dans des conditions respectant les normes reconnues, certifiées au niveau local. Et cette production-là, il y a la mise en place progressive des unités de transformation. Les unités de transformation, dans ces unités-là, il y a le fognon qui est décortiqué, qui est vanné, qui est emballé. Et c'est le produit fini qui est ramené au niveau de la ville pour être vendu. Et quand c'est vendu, ce n'est pas seulement au niveau du village où c'est produit, mais c'est sur toute l'étendue du territoire. Et ça donne une consommation. Mais l'œuvre doit être soutenue pour que même nous ayons la possibilité de pouvoir l'envoyer à l'extérieur, que vous puissiez mieux connaître le fognon au Canada, que vous puissiez consommer le fognon au Canada. Et ça, je l'espère vivement. Et ça, c'est le travail, le portrait de la femme qui travaille en milieu rural pour la production du fognon.
Hier, durant la conférence, vous avez beaucoup parlé d'agroécologie, comme quoi c'était quelque chose de très central à comment vous voyez l'agriculture, comment est-ce que vous avez envie de développer l'agriculture avec vos différents projets. Puis j'aurais aimé que vous nous en parliez un peu plus.
Si nous parlons d'agroécologie, le projet actuellement sur lequel nous sommes, nous l'appelons, il y a le titre même qui est l'égalité de genre menée par les femmes en Afrique de l'Ouest, mais pas l'agroécologie. Quand nous parlons de l'agroécologie, c'est le retour à des pratiques qui ne nuisent pas ni à l'homme, ni à la terre, ni à l'eau, ni au sol, ni à l'environnement. Nous devons finir avec ça. Et il y a des pratiques très simples, peu coûteuses. Et ces pratiques-là, c'est le gros du travail que nous faisons avec ces producteurs et ces productrices en milieu rural. Comment nous pouvons avoir les pesticides organiques? on n'aura pas besoin d'avoir des pesticides chimiques importés qui vont nous détruire. Comment nous pouvons avoir au niveau local des engrais biologiques? Et ça, c'est une formation que nous donnons aux producteurs, aux productrices, et nous suivons même toute la chaîne au niveau technique pour voir si toutes les conditions sont respectées. C'est, quand nous parlons de pratiques agroécologiques, c'est des pratiques qui ne nuisent pas à la santé humaine, à l'environnement, au sol, à l'eau. Et ça, on peut aussi connaître cela de façon très simple en milieu rural.
Génial. Ben, je vais avancer un peu là-dessus. Hier, vous avez dit quelque chose que j'ai noté parce que ça, je trouvais que ça l'interpellait beaucoup. Vous avez dit que manger, c'est un vote. Puis j'aimerais ça vous entendre un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, manger, c'est un vote?
Effectivement, manger, c'est un vote. Je choisis ce que je mange. Et ça, c'est ce que nous ne savons pas. Chacun est libre de choisir ce qu'il mange. Je ne peux pas choisir ce que je mange en sachant directement que je mange le poison, je mange ce qui va me tuer. C'est en ça que nous devons nous réveiller. Et je choisis ce que je mange fait partie d'une vaste campagne de plaidoyer que nous menons au niveau d'Inades Formation. Nous l'appelons la campagne conscience alimentaire. L'alimentation est un droit et manger, c'est un vote. Et tout le monde doit adhérer à cette campagne-là. Nous ne pouvons plus continuer par manger des produits toxiques. Et c'est en ça que je choisis ce que je mange. Tu peux choisir ce que tu manges. Tu peux décider de continuer par manger des produits toxiques. Moi, je dis non. Je vote pour une alimentation saine, durable. Je me suis déjà engagée.
Puis, justement, cette alimentation-là qui est saine, qui est durable, est-ce qu'en ce moment, on peut se l'offrir au Togo? Est-ce que on l'a un peu effleuré plus tôt, mais la mondialisation, l'accès justement à l'import-export, ça peut venir créer des dynamiques où est-ce que ça dévalorise en fait les coûts des productions locales, ça dévalorise le fait d'acheter local versus d'acheter quelque chose qui vient d'ailleurs et qui serait moins cher. Est-ce qu'en ce moment, les Togolaises et Togolais ont accès à bien s'alimenter puis sans trop de compétition ou pouvoir valoriser justement cette alimentation-là qui est locale?
La valorisation de l'alimentation locale est en cours et du chemin reste à faire. Beaucoup du chemin reste à faire. Aujourd'hui, nous avons le marché togolais qui est encore envahi par des produits importés. Et malheureusement, on en a encore pour longtemps parce que nous avons commencé le travail. Il faut d'abord que nous comprenions tous. Il faut que les politiques comprennent et qu'on soit libérés. On ne peut pas s'en défaire aussi libre et aussi rapidement, je le dirais, de l'invasion de la globalisation, de l'invasion de nos marchés. Mais il faut qu'on parte de la prise de conscience individuelle pour de façon progressive avancer. Aujourd'hui, nous avons encore des produits, nous ne mangeons pas encore sainement au Togo. Mais nous avons commencé la marche et nous y arriverons.
Mm-hmm, j'adore. Je crois qu'il faut cet espoir-là, puis merci vraiment en fait de l'apporter, cette sensibilisation-là, puis de les porter, ces projets-là, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver tout à fait. Puis ben nous, on est là avec nos grands projets, puis à travers ça, il y a différents éléments qu'on n'arrive pas à contrôler. Vous avez abordé, entre autres, la guerre en Ukraine, différentes tensions et enjeux sociopolitiques, mais il y a aussi, malheureusement, les changements climatiques qui nous frappent et qui déstabilisent notre milieu agricole et donc notre souveraineté alimentaire. Puis comment, en ce moment, au Togo, vous vivez les impacts des changements climatiques, mais comment est-ce que souveraineté alimentaire dans un pays avec des milieux arides ou autres, c'est intimement lié avec les changements climatiques?
Le changement climatique aujourd'hui, c'est une réalité, pas seulement au Togo, comme vous le constatez. Pour y faire face, il y a l'aridité, il y a le manque de l'eau, les pluies, tout a changé. Tout a changé. C'est en ce sens qu'il faut plutôt promouvoir la culture locale, les cultures qui s'adaptent au contexte local. Parce que si nous prenons une culture, par exemple, une semence qui est venue de l'extérieur avec ses conditions, avec ses normes, et si nous prenons la pluviométrie que nous ne maîtrisons pas, Ça veut dire une fois qu'on commence par semer, par utiliser ces semences-là, nous n'aurons pas la productivité nécessaire et nous n'aurons jamais réglé le problème de la faim. Et au-delà de ça, il y a dans les milieux ruraux aujourd'hui le manque d'activité et secondaire où on a toujours considéré le milieu rural comme un milieu où on ne peut pas réellement avoir une entreprise viable. Face au changement climatique, il faut que nous arrivions à mettre l'accent sur l'aspect entrepreneurial même de l'agriculture. Mettre l'accent sur l'aspect entrepreneurial de l'agriculture, la valoriser avec les moyens locaux. Et par rapport au-delà même de cet aspect de souveraineté alimentaire, il y a d'autres projets complémentaires aussi qui ciblent de façon directe la restauration des sols et aussi la régénérescence de toutes nos zones à travers au niveau côtier. Il y a comment organiser les femmes à s'impliquer dans cette action de restauration du sol et de régénérescence du cadre de la biodiversité.
Qu'est-ce que le développement local selon les membres de l'ACOSI? Dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale, le développement local renvoie à un processus de développement qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes par la recherche locale de solutions aux problématiques sociales, économiques, environnementales et politiques des collectivités et territoires. Cette approche du développement met l'accent sur la pleine participation des acteurs locaux, pouvoirs publics, secteurs associatifs et communautés locales dans la poursuite d'objectifs axés sur le bien-être des populations locales. Ces dernières doivent être impliquées dès la phase de conceptualisation des projets et des programmes de développement local. En principe, le pouvoir est donné aux collectivités locales afin de renforcer leur autonomie et réduire leur dépendance vis-à-vis des partenaires étrangers. Cette définition est tirée du lexique de la solidarité internationale développée par l'ACOSI, issue de la démarche de co-construction.
Vous avez déjà donné des pistes dans votre réponse, mais j'aimerais vous poser une question parce que c'est un grand classique ici. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut prendre part à l'action climatique, que ce soit au Togo ou ailleurs?
Comment est-ce qu'on peut prendre part à l'action climatique?
Dans le fond, ça serait une piste de solution, une piste d'action. Si je donne un exemple, est-ce que c'est en manifestant? Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux? Est-ce que c'est en se regroupant, justement, qui est un peu ce que vous avez déjà nommé, là?
Merci bien. L'action climatique ne se limite pas seulement au Togo. Nous avons commencé la marche, mais nous pouvons toujours l'améliorer en partageant l'information dans les quatre coins du monde. L'alimentation, c'est un droit. Et manger, c'est un vote. Pour y prendre part, il faut que tout le monde soit informé. Et l'information aujourd'hui passe par la radio, par les réseaux sociaux, par les petites vidéos qu'on partage. Il faut partager à tout le monde, lui expliquer que l'alimentation, c'est un droit. Et pour que ce droit soit réalisé, nous devons faire des choix. Et au-delà des choix, nous devons contribuer en changeant nos comportements. Aussi, en contribuant aussi peu soit-elle, parce qu'aujourd'hui, le défi en Afrique et au Togo, quand nous parlons du travail en milieu rural, quand nous parlons des femmes qui transforment, quand nous parlons de la mise en lien, quand nous parlons de la commercialisation, il y a aussi du soutien. Celui qui peut contribuer à l'œuvre, là, doit y contribuer de façon aussi financière. C'est important parce que si on ne contribue pas, si on continue toujours pas investir dans l'agriculture industrielle et chimique, nous pouvons beau parler, mais rien ne changera. Donc, il faut aussi investir pour appuyer l'acte de soutien à l'action climatique pour la promotion de l'agroécologie au Togo et en Afrique. Il y a aussi le vaste mouvement de plaidoyer et nous vous invitons à vous associer à ce plaidoyer-là. Au niveau de l'Afrique, nous avons la COPAGEN, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique. Et dans les pays où nous intervenons, et surtout le continent, il y a des représentants qui sont membres. Ça veut dire qu'au niveau de l'Afrique, nous avons une voix au sein de cette organisation-là et faire le plaidoyer. Ce plaidoyer aussi peut être porté au niveau international par des alliances pour nous faciliter ensemble l'avènement du droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire.
Merci vraiment de votre partage, de votre temps, de toutes les connaissances que vous nous avez partagées. Vous auriez initialement dû être, on aurait dû être face à face, mais il y a eu des défis logistiques qui nous en ont empêchés malheureusement. Donc, je suis très heureuse qu'on ait réussi à trouver moyen quand même de se retrouver à travers les ondes. Puis c'est certainement une discussion en fait qui va continuer à faire son chemin à travers justement les oreilles des gens qui vont nous entendre, là.
Oui, et aussi, au-delà des oreilles, il faut que ça continue. Il faut que ça continue à travers les projets comme le projet Egalao, à travers des projets concrets que vous appuyez aussi. Et ça peut aussi favoriser le travail. Merci.
Alors, merci encore une fois, Madame Moucha et à Interparis pour cette collaboration à ce tout premier épisode. Mais merci à vous aussi qui nous avez écoutés. On espère sincèrement que notre échange avec notre invité vous a permis de mieux comprendre l'intersectionnalité, donc la rencontre entre les enjeux climatiques et la souveraineté alimentaire. On vous invite à continuer de vous informer, de poser des questions et ultimement, mais en fait, à prendre part vous aussi à l'action climatique. Ce balado est rendu possible grâce à la table de concertation jeunesse en solidarité intersectionnelle de la COSI, le SUCO et le CECI. Un merci tout spécial à Caroline Delamotte pour la réalisation de cet épisode. Pour en savoir plus, on vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux. C'était Sandrine Elie et on se dit au prochain épisode.